Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au chaud et que vous passez une agréable journée. Nous sommes le mardi 30 novembre 2021, on a profité de belles éclaircies ce matin. On espère que ça dure, mais Météo France annonce le retour des nuages cet après-midi. Et les températures montent jusqu'à 5-6 degrés. On note des risques d'averses pour demain. Au programme de notre émission du jour, je vous rappelle tout d'abord nos rendez-vous habituels avec le coach qui n'hésite pas à nous faire part de son point de vue sur toutes sortes de sujets d'actualité. Et puis Bertrand Lamure, avant la fin de l'heure, pour un petit point littérature. Avant ça, nous avons rendez-vous avec nos invités du jour. Nous recevons aujourd'hui une équipe sportive des plus motivées, les Molinelles. Quatre femmes, quatre aventurières, je dirais, qui se sont lancées le défi de participer au trek Elle Marche. Quatre jours de trek d'orientation dans le désert marocain, en équipe, munies d'une carte et d'une boussole. Des aventurières donc, comme je vous disais. Alors, le sont-elles déjà? Je ne sais pas, mais elles vont le devenir, c'est certain. Le truc sympa avec ce truc, c'est qu'il y a également une action solidaire qui est liée avec une journée de chantier sur place pour donner un coup de main dans un village. Rénovation d'écoles, plantation, construction d'un four à pas, ce genre de choses. On va donc parler aujourd'hui d'aventure au féminin et pour ça je vais recevoir Stéphanie Pacou et Jocelyne Bernigo des Molinelles. Mais pour commencer l'émission, avant de recevoir des marcheuses, on écoute la marcheuse, c'est Christine and the Queen qui nous chante ça. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Je vais toujours au devant.
And the Queen sur Calade avec la marcheuse.
Ensemble sur Calade.
100.9 Calade.
Allez, aujourd'hui avec moi en studio Stéphanie Pacou et Jocelyne Bernigaud, ou plutôt les Molinelles. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu.
Alors, les Molinelles, c'est le nom de votre équipe d'aventurières. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Qu'est-ce que vous partez faire? Expliquez-nous le projet que vous avez monté.
Alors, avant tout, pourquoi les Molinelles? Parce qu'en fait, nous sommes quatre filles en fait, qui travaillons pour la société Molinelles, située à Liergue.
Ouais.
Et comme nous avons décidé de partir sur un trek qui s'appelle le trek L, en majuscule, le trek L marche,
ouais.
Donc du coup, le nom était tout trouvé, ça sera les Molinelles, L en majuscule.
Ouais. Ce trek, ce défi de quel jour? Je disais au début d'émission que vous êtes des aventurières. Est-ce que vous l'êtes déjà des aventurières ou c'est vraiment un défi que vous vous lancez de faire ce trek? C'est quelque chose au-dessus de ce que vous faites d'habitude ou
oui, pour
vous avez
ma part,
l'habitude de faire ça?
Pour ma part, et je pense que je peux parler aussi au nom des trois autres, on est sportive, on fait pas mal de choses. Par contre, partir dans le désert marocain,
voilà.
Course d'orientation, parce qu'il va falloir apprendre à s'orienter sans GPS. Donc sportive, oui, aventurière, on va le dire, effectivement.
On va expliquer en quoi ça consiste. Donc le trek, ça s'appelle Elle Marche, c'est ça?
Voilà, c'est ça, le trek Elle Marche, oui.
C'est une association qui organise ça? Ça marche comment?
Oui, c'est le trek, le nom, c'est le trek Elle Marche, mais qui est... derrière, il y a une organisation qui s'appelle le Défi du Cœur,
ouais.
Et qui organise des événements sportifs, dont le trek Elle Marche, qui se passe dans le désert marocain, afin de récolter des fonds pour mener des actions dans cette région sud-saharienne,
ouais.
Et venir aider les populations locales.
Et donc là, le trek, en l'occurrence, on a dit c'est 4 jours et c'est de la course d'orientation, grosso modo.
Oui. 4 jours de course d'orientation. Donc la veille, on nous donnera notre cap pour le lendemain.
Ouais.
À nous de le dessiner sur la carte pour avoir le meilleur cap et faire le moins de kilomètres possible.
D'accord.
Afin d'arriver à 3 bornes. À chaque borne, on check qu'on est passé.
Ouais.
Et puis on répond à une question sur le Maroc.
D'accord.
Et on se dirige vers la deuxième borne, puis vers la troisième borne. À la troisième borne, on nous demande si on veut faire le petit défi, donc on nous a bien prévenu que tout le monde le faisait, donc on n'a pas le choix. Et donc en général, c'est 5 km de plus.
Ouais.
Et enfin, trouver le bivouac du soir, toujours avec des coordonnées GPS. Et il faut qu'on arrive à se débrouiller avec ça. Donc normalement, on fait 25 km si on se perd pas trop.
Ok. Vous avez donc la carte et des points à relier, à rejoindre.
Avec compas et boussole.
Ouais,
exactement.
Et pas d'outils modernes, vous n'aurez pas le GPS, le Google Maps dans la poche, quoi.
Surtout pas, c'est interdit.
Ouais, c'est totalement sûr. Interdit.
Et donc, ce qui va être bien pendant ces 4 jours, c'est que nous allons être coupés du monde,
ouais.
C'est-à-dire que nous ne pourrons pas donner de nouvelles, et nous serons un point sur une carte, c'est-à-dire que, comme c'est sécurisé, nous avons une balise
vous
pour
l'équipe.
Vous êtes
suivi quand même, vous n'êtes pas abandonné dans le désert.
Non, tout ouais. À fait. Et cette balise a des coordonnées qu'on pourra mettre sur notre compte Facebook. Et tout un chacun pourra nous suivre, nous serons un petit point sur la carte. Donc ça va être sympa pour vous.
Ouais.
Par contre, voilà, pour nous, pendant 4 jours, c'est pas de contact.
C'est l'aventure à 100%. C'est un trek aussi qui est 100% féminin. C'est que des équipes féminines qui participent?
Voilà, exactement. En fait, il y a 2 sessions. On on participe à la deuxième session. Et donc, c'est 60 équipes de 4 filles.
D'accord.
Voilà.
Et alors, comment est-ce que vous avez découvert ce trek et qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer ?
Bah, quand on a décidé de partir dans une aventure avec un gros défi, on s'est dit on voulait marcher, faire quelque chose, et on voulait qu'il y ait vraiment un sens à tout ça. Donc on a souhaité vraiment trouver une association où on pouvait combiner le sport, le défi et la solidarité auprès d'autres femmes.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on est arrivé à signer avec le Trek Elle Marche.
Parce que je crois qu'on ne l'a pas évoqué, mais je crois qu'il y a une journée en plus après les... Je ne sais pas si c'est avant ou après les 4 jours. C'est après.
Oui, parce que c'est vrai que quand on va sur Internet, on trouve beaucoup de choses organisées. Par contre, comme l'a dit Jocelyne, on voulait du sport, ça c'est notre ADN. On voulait un petit défi, donc c'est l'orientation, parce que ça on n'en fait pas. Mais voilà, il n'y avait pas que ça. Derrière, il fallait qu'il y ait du sens. Et donc ce trek-là, justement par rapport à d'autres... nous devons donner une cinquième journée de solidarité.
Ouais.
Donc on fait les 4 jours de trek et le cinquième jour, on va justement planter des arbres, peindre une école, créer un four à pain ou des choses comme ça. Et en plus de cette cinquième journée de solidarité, derrière l'association qui gère le trek, le Défi du Cœur, ils ont à cœur de faire des choses au quotidien et notamment mettre en place une école nomade itinérante pour tous les villageois et les éleveurs de ces régions-là.
D'accord.
Pour que les enfants soient scolarisés.
D'accord.
Donc vraiment, en participant à ce trek, bien nous, derrière, on participe à tout ça.
Ouais,
ça. Et tout cela, du coup, a du sens pour nous.
Et ça donne du sens à la course.
Exactement.
Oui. Y avait cet aspect-là, mais il y a un aspect défi, challenge qui est aussi important. Déjà, comment est-ce que vous avez formé cette équipe ? Alors, si j'ai bien compris, vous êtes rencontrées au travail ?
C'est ça. En fait, on est toutes 4 femmes qui travaillent donc dans des services complètement différents.
Ouais.
Donc, Émilie au bureau d'études, Stéphanie qui est au service marketing, moi au service commercial, et Marilyn qui est au service fabrication spéciale. Et lors de toutes ces périodes de Covid, de confinement, en fait, on ne pouvait plus voir nos amis, nos familles.
Ouais.
Et du coup, nos collègues sont devenus un peu les relations humaines. Et donc, du coup, suite à cela, Stéphanie a mis en place des séances de sport entre midi et deux. On s'est toutes découvertes à aimer le sport tout ensemble. Et de ces rendez-vous quotidiens, c'est là où nous avons eu l'idée de sortir de notre zone de confort.
Ouais. Il y a vraiment une notion de dépassement dans ce projet-là de trek. C'est ça aussi qui vous a motivé de se dépasser, de découvrir ses propres limites.
Je crois que ça nous dépasse un peu, en fait, parce que la base, on est des sportives. Il n'y avait que Émilie qui pensait ne pas l'être, et finalement, elle l'est parce qu'elle nous suit.
Ouais.
Donc, on était plusieurs personnes de la société. Mais rapidement, il y a eu les 4 profils qui ont eu envie de faire quelque chose ensemble. Et c'était faire du sport, faire quelque chose. Et puis, à 4, on se libère de quelque chose. Et puis, on a vu grand, effectivement. Enfin, on trouve qu'on l'a vu grand. Et je pense que ça nous dépasse. Et quand on nous pose les questions, je ne sais pas si on se rend encore tout à fait bien compte de vers quoi où on va. Parce que là, l'échéance est un petit peu loin. Donc, il y a l'entraînement physique. Et il y a la recherche aussi des sponsors et du financement. Donc, en fait, tout ça mêlé, on n'a pas trop le temps de se poser et de se dire à quoi on participe. C'est plus dans les yeux des autres qu'on se rend compte. Oui, oui.
Ouais, l'ampleur du défi que vous avez lancé, c'est
peu.
Impressionnant. Qu'est-ce qui vous paraît le plus challengeant là-dedans? Moi, par exemple, je me dirais, dans le désert, on va mourir de chaud. Marcher dans le désert, je sais pas, est-ce que c'est l'orientation qui vous paraît être un grand défi?
Moi, pour ma part, je suis quand même sportif, la chaleur je crains pas trop, mais dans le désert j'ai jamais testé, donc on vous dira ça quand on va rentrer. Par contre, c'est l'orientation. C'est quelque chose que je fais pas de course d'orientation. Il y a rien dans ma vie qui tourne vraiment autour de ça. Donc on va avoir une journée d'apprentissage par l'organisation, bien sûr, où c'est indispensable, donc on est obligé d'y aller. Donc ça va se passer le 15 janvier sur le nord, le sud de Paris, pardon.
D'accord.
Où on va nous apprendre. Et j'attends avec impatience parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien me préparer.
Ouais.
Et là, ils nous ont dit, n'allez pas voir sur Internet, ça sert à rien. On va tout vous apprendre le 15 et ça va suffire. Donc, je peux vous dire que là, je suis super impatiente parce que ne pas me préparer, c'est pas mon truc.
Ah oui.
Et donc là, j'ai hâte qu'on nous apprenne pour qu'on s'entraîne un petit peu. Parce que moi, voilà, le défi pour moi, c'est vraiment ça.
Utiliser la carte, la boussole, les repères qu'on peut trouver.
Voilà, comme vous l'avez compris, et comme le disait Jocelyne tout à l'heure, on veut quand même être sur le podium. Donc, le but, c'est de marcher 25 km 4 jours. Donc ça, on s'entraîne physiquement depuis 2 mois et on a encore 3 mois devant nous. Donc on va être entraîné. Par contre, il faut faire le moins de kilomètres possible. Donc il va falloir bien tailler sa route, comme on dit.
Si vous vous perdez, vous risquez d'en faire un petit peu plus.
Et voilà, et on ne sera pas sur le podium.
Mais il y a une envie de performance, alors.
Oui.
Ouais, y a une envie
On est sportive dans l'âme.
Yeah. On a envie, on veut être sur le podium et on fera tout pour l'être, en fait.
L'esprit
c'est même pas une histoire d'être à côté du podium, non. Non, on sera sur le podium et on va y aller et on reviendra avec la coupe dans notre belle région.
Ramener la coupe à la maison, très bien, on compte sur vous. Vous avez évoqué des sponsors, parce que c'est une aventure qui se finance.
Qui se prépare et qui se finance, tout à fait, qui se prépare physiquement et qui se finance. Donc on a déjà 4 sponsors, donc on a notre société, Muselle du Lac à Son Molinel.
Ouais.
On a administrativement Induscopie. Et le domaine du pressoir Fleury.
D'accord.
Donc après, voilà, si vos auditeurs ont envie de nous soutenir, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter.
Vous cherchez d'autres sponsors ?
Tout à fait, cherche d'autres sponsors et nous avons aussi créé une cagnotte Litchi en ligne, la cagnotte des Molines L. Et donc tout un chacun peut, s'il a envie de participer à cette belle aventure avec cette solidarité derrière, peut aller participer sur la cagnotte Litchi.
Ouais, alors Molinel, ça s'écrit Moline, M-O-L-I-N, apostrophe L au pluriel, E-2-L-E-S.
Oui, c'est ça.
Et je crois que vous avez multiplié les actions, parce que ce projet-là, vous l'avez depuis quelques mois déjà. Vous multipliez les actions pour le financer. Là, la dernière, c'était une vente qui a eu lieu le week-end dernier.
C'est une vente de couscous qui a été élaborée. Donc non seulement on a bien sûr cuisiné également avec notre marraine. Notre marraine qui est Anne de la Cour. On a souhaité pareil l'emmener dans notre aventure et donc on a fait un gros week-end on a cuisiné 170 parts de couscous. C'était un week-end de dingue, c'était génial. Et hormis ça, vous avez Marilyn qui donne des cours de couture pour financer notre trek. On a fait les vendanges auprès de domaines viticoles dans le Beaujolais. On a vendu, on vend des légumes, on vend des préparations. On fait beaucoup, beaucoup de choses pour financer notre trek. Et au mois de décembre, nous allons mettre en place une vente de vin, pardon, sur le mois de décembre.
D'accord.
Pour continuer à augmenter notre cagnotte.
Et tout ça, comment
est-ce qu'on... Parce qu'il nous reste encore un peu, il nous reste encore 5600 euros
à trouver
pour clôturer notre cagnotte.
Parce qu'il faut payer les billets d'avion, l'hébergement, l'inscription, etc.
Exactement.
Ça forme un sacré budget. Je crois qu'il y a une tombola aussi qui est en cours avec des super lots. En fait, moi j'ai été impressionné par ce qu'il y a dans cette tombola.
Et oui.
Tout à fait, on a fait une tombola et ceux qui participeront à notre cagnotte Litchi participeront d'office à cette tombola. On a une dizaine de lots.
Ouais.
Donc là, c'est pareil, il a fallu se lancer. C'est pas forcément dans notre ADN d'aller comme ça chercher des lots, mais quand on veut se dépasser pour une belle aventure, on a trouvé l'énergie, le dynamisme et de convaincre des gens. Et donc, on a un bon repas...
À la Corbeille-Fleurie
sur Liergue. On a des jolis paniers esthétiques et de crème.
Ouais.
On a un séjour dans le sud pour 5 jours de vacances dans le sud.
Ouais.
Donc voilà, on a des très beaux lots, oui.
Et donc tout ça, c'est sur les infos, on les retrouve sur la cagnotte Litchi, donc les Molinelles. Et il y a vos réseaux sociaux aussi, on peut vous suivre et on pourra suivre l'aventure. Là, quand vous serez parti dans le désert marocain, on pourra vous suivre au jour le jour.
Eh bien, en fait, sur notre page, on a une page Facebook, une page Instagram où vous pouvez nous suivre sans problème.
Et donc là, on met toute la préparation parce que l'aventure, ce n'est pas que les 4 jours qui vont se passer dans le désert marocain. Donc l'aventure, elle a commencé un 21 avril. Ouais. C'est là où on s'est décidé sur un tour de table à 4 en s'enlevant nos barrières pour s'inscrire. Et depuis, eh bien, on trouve les idées parce qu'on est là pour partager cette aventure, partager le trek, demander de l'aide. Mais on est là aussi pour dire que ben on se bouge, ouais. On fait plein de choses, on a fait les vendanges, on fait des cours de ménage, des cours de couture, on fait des ventes. Et donc ça fait partie de l'aventure. Et par contre, comme vous l'aurez compris, pendant les 4 jours de course, il n'y a pas de GPS, donc vous ne nous verrez pas, enfin c'est pas nous qui allons donner des nouvelles, ouais. Je pense que l'organisation va mettre des photos, ouais. Par contre, comme c'est un trek réputé et très sécuritaire, on aura une balise GPS et sur notre compte Facebook et Instagram des Molines L, ouais. Nous mettrons le lien et vous pourrez nous suivre pendant ces 4 jours. Et nous serons un point dans le désert.
Voilà, on pourra voir la balise et puis suivre probablement voir avec les photos que les organisateurs posteront, etc.
Et par contre, la cinquième jour, je peux vous dire qu'on va mettre la journée de solidarité, on va donner des nouvelles et on va mettre bien sûr des photos pour partager ces belles actions qui sont mises en place.
Je crois que vous avez un message aussi de dépassement et d'inciter. Vous avez une envie de donner exemple aussi en osant faire des choses, donner un exemple aux autres, montrer que c'est possible.
Par exemple, moi, pour ma part, voilà, j'ai... Alors, je dis 37, mais non, j'ai 47. Parce que sinon, je mens toujours un petit peu sur mon âge. Donc là, je ne peux pas. J'ai 47 ans et quelque chose comme ça, je ne me suis jamais lancée. Je n'ai jamais osé. Et quand on était autour de la table, je me rappelle avoir dit, bah oui, mais financièrement, on n'y arrivera pas. Une autre a dit, bah moi, c'est le côté sportif. Et en fait, à 4, on s'est porté et on a levé toutes ces barrières et on s'est inscrite un peu, oui, pas comme un coup de tête, mais un peu en se disant il faut qu'on arrête de se mettre ces barrières, et ben on va trouver des solutions. Et finalement, depuis le 21 avril, et ben on les trouve, ces solutions, on avance à 4 par le biais de notre société qui nous soutient énormément, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui avec vous, qui nous sponsorise, ouais. Qui nous encourage. Donc on se sent porter des ailes. Et on trouve plein de solutions. Donc oui, on est là aussi pour dire à tous ceux qui nous écoutent, des fois il faut pas trop s'écouter, il faut s'enlever ses barrières, il faut foncer. Puis on trouve, voilà, il faut oser, tout à fait.
Et du coup, nous sommes en fait capables de bien plus que nous pensons. En fait, on peut aller vraiment très très loin en sortant de sa zone de confort. Et franchement, tout est possible.
Bon, et ben en tout cas, on vous souhaite une belle course, on vous souhaite de monter sur le podium aussi.
Oui, merci.
Et merci à toutes les deux d'être venues nous parler alors de ce beau projet, les Molinelles. Et on passe le bonjour aux deux autres membres de l'équipe, Émilie et
Marilyn.
Et Marilyn,
tout à fait. Qui nous écoutent.
Salut les filles.
À bientôt sur Calade, au plaisir.
Merci beaucoup, Mathieu.
Merci. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on va continuer, on va aller dans le désert justement avec les Oufris Marrakech en vélo jusqu'au Sahara.
En rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et mes envies sont aussi lisses que l'archer qui sur le violon glisse, me délivrant de mes tensions, affranchissant de tous mes vices. Et je m'en fous, je me sens bien, la musique vous va si bien. Quand vous dansez vos émotions et oubliez vos conditions d'alcoolique et de gens perdus qui déambulent dans la rue, arrive à ceux qui sont ailleurs, attendre qu'ils fassent meilleur. Sur la paroi de vos angoisses qui m'indiffèrent par ailleurs, l'amour dans ce monde dégueulasse. L'incertitude de l'avenir est comme une impression tenace, la sensation qu'il faut partir, ne pas mettre le pied dans la nasse, du pognon et de la tirelire. Recomptez vos souvenirs, vérifiant qu'il ne manque pas, la musique vous fait languir, celui qui sautera dans vos bras, celui qui vous fera enfin rire, vous emmènera au cinéma, ou vous proposera de vous enfuir, en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara. Un peu de patience, mademoiselle, celui qui vous coupera les ailes n'est pas encore prêt de venir. Il a décroché un contrat pour assurer votre avenir. Lui qui se voit déjà papa, il veut pour vous faire plaisir, vous voir en robe d'apparat. Mais il n'a plus le temps de vivre, de vous voir ou de vous sourire. Il est rongé par le travail et vous n'osez pas lui dire la profondeur de votre mallette, les détails de votre lassitude, même si ça va de pire en pire, demain ça ira mieux peut-être. Alors à la fin vous dansez, vos idées noires faites valser sur un air de swing ravageur, entretenez secrète espoir qu'un soir il rentrera fatigué, comme frappé par le malheur, et vous dira me suis fait virer, faites tes valises, on part ce soir, et ce jour-là vous le suivrez, et vous traverserez la rive, le monde sera toujours meilleur s'il faut partir à la dérive. Après tout l'essentiel pour vous n'est-il pas de vous sentir vivre à Babel Wed, à Katmandou, en vélo ou au sang, en vélo ou au sang. En rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez, j'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux, et je donnerai n'importe quoi pour être celui qui danse avec toi, celui qui te proposerait de partir en vélo jusqu'au sang, en vélo jusqu'au sang, en vélo jusqu'au sang.
C'était les Oufris Marrakech qui nous emmenaient en vélo jusqu'au Sahara.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous m'acquittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Allez, on retrouve le coach tout de suite sur Calade. Bonjour.
Salut gamin.
Vous allez bien?
Mais ça va bien et toi?
Bah ouais, je vais très très bien. Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation des jeunes enfants. Et on va parler précisément d'un monument de l'enfance, un rite de passage pour tous les enfants qui vivent, soit en milieu urbain, soit à la campagne, la glissade sur les fesses sur la pente métallisée des toboggans des aires de jeu municipales.
On parle de toboggans aujourd'hui.
On n'imagine pas tout ce qui se joue, gamin, en termes d'expérience, de transmission et d'éducation sur un toboggan.
Non, on n'imagine pas, non, effectivement.
J'ai pris conscience de tout ça lors d'une soirée ciné-conférence sur la motricité libre organisée par le relais d'assistante maternelle de la mairie de Glézé. Une petite soirée bien bad qui était sympa.
Très bien.
Il y avait un documentaire et puis après un échange avec des professionnels, psychomotriciens, éducatrices de jeunes enfants, infirmières puéricultrices. Enfin, non, c'était vraiment bad comme soirée.
D'accord.
Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, le principe de la motricité libre, c'est de laisser les bébés se mouvoir sans aide directe pour leur laisser acquérir les bons réflexes et les laisser passer par toutes les étapes nécessaires avant de réussir, par exemple, à se retourner sur le ventre ou à se lever, à grimper sur quelque chose et bien sûr à marcher. Parce que lorsqu'on intervient trop dans la progression des bébés, en les aidant à se retourner, à se lever, en les calant avec des coussins pour qu'ils tiennent tout seuls assis, eh bien, ils ne passent pas par toutes les étapes du développement moteur et sensoriel dont ils ont besoin. Un bébé qui recherche à se retourner sur le ventre a besoin d'expérimenter toutes ces étapes qui lui permettront de le faire, de comprendre qu'il faut tirer le bras et qu'il faut tourner sur ce bras, balancer sa jambe, enfin tout ce qui lui permettra de réussir tout seul cette grande étape du développement d'un bébé. Et si nous intervenons pour le retourner nous-mêmes quand on comprend qu'il a envie de se retourner, ben on le prive de tout cet apprentissage et ça lui manquera plus tard. D'ailleurs, une fois enfant, voire même une fois adulte, certaines et certains ont besoin de repasser par ces étapes manquées. Et ce travail, il est fait par des psychomotriciens et des psychomotriciennes. Et ça permet à ces personnes d'acquérir des réflexes et des séquences de mouvements qui leur font défaut. Donc, ce n'est pas simplement une nouvelle mode ou quelque chose de sympa. C'est vraiment important parce que ça peut nous handicaper pour plus tard. Bon. C'est à ce moment de la chronique que je vous invite à monter avec moi sur le toboggan, mes petits chatons, pour illustrer ce principe de la motricité libre.
Très bien.
Le plus souvent, dans sa formule classique et non revisitée, un toboggan se compose d'un escalier ou d'une échelle et d'une rampe de glissage lisse.
Ouais.
Eh bien, le principe fondamental avec le toboggan dans la motricité libre est le suivant. Tant que l'enfant n'est pas capable de monter seul sur le toboggan, il n'est pas prêt à glisser.
D'accord. Donc il faut pas.
On vous voit, hein, les parents et les grands-parents dans les parcs, à sauter la première étape pour asseoir vos mioches directement sur la plateforme et pour faire la descente. Le coach va vous faire les gros yeux. C'est pas bien.
Bah mince alors.
Faire descendre les enfants avant qu'ils ne réussissent à monter seuls, c'est potentiellement les mettre en difficulté. D'ailleurs, quand on les voit faire, les premières descentes ainsi pratiquées sont souvent peu gracieuses. Le gamin, sous l'effet de la glissade, part en arrière comme un culbuto qui ne réussit pas à tenir son équilibre et finit sa descente au mieux dans les bras de papy, au pire, le cul et la moitié du dos par terre.
Oui.
Il fait une tête qui dit qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé et hop, le voilà déjà sur la plateforme prêt pour faire la deuxième descente. Le gamin qui ne descend qu'une fois qu'il a réussi à grimper seul aura lui développé des habiletés motrices qui lui permettront de mieux gérer la descente. Il sera rassuré par sa progression, pour ainsi dire marche par marche, se rassurant à chaque étape. Cette façon de faire, eh ben, ça lui donne confiance au gamin. Alors, autant les adultes adorent gruger la première étape, autant ils n'aiment pas que les mioches ne respectent pas les 5 commandements du toboggan. Ah. Le premier de ces commandements, c'est « Assis sur les fesses, tu descendras ».
Oui.
Alors, heureusement, certains gamins échappent à la surveillance des adultes et réussissent à expérimenter d'autres façons de descendre. Allongés, sur le ventre, la tête la première, de quoi rendre fous les parents. Mais non, mon cœur, c'est pas comme ça, c'est assis. Pourtant, l'expérimentation des possibilités fait partie de l'apprentissage. Les gamines se transforment en ingénieurs sur un toboggan pour tester toutes les possibilités offertes par le bousin. C'est normal, et je dirais même plus, c'est même sain. Alors le deuxième commandement, c'est tu monteras par les marches et non pas par la surface de glisse. Pourtant, quoi de plus tentant que d'essayer de remonter par la surface lisse et glissante une fois qu'on est descendu.
Ah bah ouais.
Tous les gamins veulent tenter le coup.
C'est ce qu'il y a de plus rigolo.
C'est d'abord ce qu'il y a de plus rigolo, et en plus c'est excellent pour la motricité.
Très bien.
Mais c'est vrai, faut reconnaître quand même, gamin, que c'est un peu relou pour les autres qui attendent pour descendre.
Oui, ah oui, c'est vrai.
Et c'est là où on doit faire un choix éducatif en tant qu'éducateur d'enfants, que l'on soit parent, grand-parent, nounou, peu importe. On doit choisir entre l'apprentissage moteur ou l'apprentissage social. C'est souvent cette histoire de remonter le toboggan. Et ben, l'apprentissage pour le gamin relou du partage du toboggan et des règles implicites pour permettre une équité dans l'utilisation du dit toboggan. Je sais, ce serait vachement plus simple si les municipalités, elles t'alignaient une quinzaine de toboggans, il y aurait moins de bagarres au toboggan.
C'est clair.
Mais en même temps, quand il n'y en a qu'un seul, il s'y joue des trucs super intéressants.
Ouais.
Le troisième grand commandement du toboggan, c'est « tu attendras ton tour ». Le toboggan, c'est l'apprentissage du respect et le contrôle de la pulsion de domination sur les autres. Tu dois attendre ton tour dans la file pour monter à nouveau sur le toboggan. Tu ne dois pas gruger. Et tu dois bien attendre que celui qui est devant toi ait terminé de faire sa descente pour pouvoir faire la tienne.
Ouais.
Et là, je dois reconnaître que malheureusement, cet apprentissage n'est pas acquis pour beaucoup. Parce que quand je vois le nombre de trous de balles au volant qui doublent avec leur bagnole, qui poussent, qui grugent dans les bouchons, tu te dis qu'ils n'ont pas bien appris au toboggan ceux-là. Voilà, c'est terminé aujourd'hui avec mon allégorie du toboggan gamin. Si vous allez vous balader dans un parc, observez un peu et vous verrez qu'on y apprend des choses très intéressantes.
Très bien. C'est autour d'un toboggan qu'on apprend la vie. C'est beau, j'aime bien moi cette idée. Merci beaucoup coach. C'était une chronique très batte, comme vous dites. À bientôt.
À bientôt gamin.
Ensemble sur Calade.
Allez, je partage avec vous aujourd'hui un de mes petits plaisirs, c'est de devenir tout guimauve en écoutant Juliette Armanet. Voici Boum Boum Baby. Sur Kered avec le titre Boom Boom Baby.
Ensemble sur Kalad.
L'humeur littéraire du libraire.
Et oui, on retrouve tout de suite Bertrand Lamure de la librairie des Marais. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, alors dans quel univers littéraire allez-vous nous emmener aujourd'hui?
Je crois qu'aujourd'hui, il fallait respecter l'actualité.
Ouais.
Voilà, soyons simples.
On va parler Panthéon.
Bravo. Ouais. Bravo. Alors, on aurait pu, je me suis dit, est-ce qu'on s'attaque à l'histoire du Panthéon mais je dis non. Mais par contre, je reconnais très envie de parler de Joséphine Baker, bien sûr.
Eh ben, je suis content que vous le fassiez, parce que j'avais envie d'en parler aussi, et je ne savais pas comment le faire, alors que vous m'avez fait, c'est parfait, merci.
Eh ben, je suis là. Non, parce que alors, c'est vrai qu'il y a un personnage, alors, ce qui est un peu, je trouve, pour ma part, assez intéressant avec ces panthéonisations, c'est que ça permet de remettre en avant un auteur, c'était le cas de Maurice Genevoix, ou évidemment une dame très très emblématique, c'était le cas avant avec Simone Veil. Et là, moi je trouve que c'est assez extraordinaire de mettre en avant une femme qui n'est pas française, mais dont l'histoire s'est quand même écrite avec la France tout au long du XXe siècle. Alors moi, je fais mon petit historien de base, hein, avant de parler un petit peu quand même des livres. Donc elle est née en 1906 à Saint-Louis. Quand on regarde et quand on lit, et donc là moi je vais avoir comme référence la très 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 belle BD qu'avait fait Catel et Boquet chez Casterman, Joséphine Baker, qui est une BD roman graphique très très bien faite. Alors Catel, en fait, c'est son prénom, hein. C'est Catel Muller, c'est une illustratrice, et Jean-Louis Boquet était au scénario. Et ils ont fait tous les deux déjà Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges. Et vraiment, pour les assidus, j'avais parlé il y a deux ou trois semaines d'Alice Guy, qui était la première cinéaste française. Ouais. Et donc c'était ce même couple qui avait fait ça. Et donc quand on lit, quand on découvre effectivement à travers Catel et Boquet le Joséphine, alors on apprend quand même que c'est une vie extraordinaire. C'est une vie ni plus ni moins extraordinaire et que la France lui doit beaucoup. Et je trouve que c'est ça qui est absolument génial, c'est comment cette femme née à Saint-Louis, très pauvre, noire, mais noire métisse, qui va, on imagine, une énergie folle, une envie de vivre totalement folle, dépasser tout ça et se retrouver à 19 ans en France, en 1925, sur les scènes du théâtre. À 19 ans, elle débarque à Cherbourg et du coup après elle est embauchée via un tourneur quelque part. Alors on lui demande tout de suite de se mettre nu, et ça va être le début de la revue nègre, dans le sens où elle va quand même refuser, mais c'est pas tout à fait ça. Et là commence cette folle aventure de cette femme, donc évidemment très belle, évidemment très douée, chanteuse, danseuse, presque, j'allais dire, presque clown, quelque part. Et on a cette folle aventure de ces années 20-30. C'est le Paris des années 20-30. Hein. C'est un Paris où elle va croiser tout le milieu littéraire, tout le milieu artistique, que ça soit les Cocteau, les Picasso, Corbusier. C'est les années folles. Et je trouve qu'elle, elle, voilà, il y a les années folles en elle. Et après, il y a ce moment d'une grande force, et c'est ce qui fait aussi que Joséphine Baker rentre au Panthéon, c'est bien évidemment la Seconde Guerre mondiale, où elle rejoint la France libre.
Ouais.
Et on lui doit beaucoup. Hein. Et puis moi, je voulais quand même, alors c'était à travers Catel et Boquet dont je viens de parler, mais c'était aussi dans un petit livre pour enfants, aux éditions Rue du Monde, et ils ont fait un petit album qui s'appelle Joséphine, la danse, la résistance et les enfants, du coup à l'occasion de son entrée au Panthéon. Et je voulais quand même juste évoquer ce que moi j'avais un petit peu oublié, hein, pourtant j'aurais dû le savoir, c'est le fameux discours que fait Martin Luther King.
Ouais.
Voilà, on se souvient tous de
I Have a Dream,
1963, donc au Lincoln Memorial à Washington. Et la personne qui parle juste avant Martin Luther King, c'est Joséphine Baker.
Ah ouais.
Et elle est en uniforme de la France libre. Donc c'est absolument, je trouvais que c'était absolument extraordinaire qu'on fait. Et alors, je cite quelques exemples de son discours, hein, où elle cite qu'elle a eu une enfance très très douloureuse. Et elle dit, quand j'ai quitté Saint-Louis, donc juste avant ses 19 ans, le contrôleur m'a indiqué la dernière voiture du train. Vous savez ce que cela veut dire. Mais lorsque je me suis enfui vers un autre pays, je pouvais aller dans n'importe quel restaurant. Je pouvais boire de l'eau où je voulais et je n'avais plus à utiliser les toilettes pour les gens de couleur. Elle rajoute, vous savez mes amis que je ne mens pas. Quand je vous raconte que je suis entré dans les palaces des rois et des reines, dans les maisons de présidents, mais je ne pouvais entrer dans un hôtel en Amérique et boire une tasse de café. Et cela m'a rendue furieuse. Et donc elle a tout ce discours-là sur évidemment l'instruction et ne pas prendre le pistolet mais plutôt la plume. Et donc devant 250 000 personnes, elle a ce discours qui est plus un témoignage de vie, elle qui est devenue une star internationale, mais qui dans son pays, dans les années 60, dans la partie sud, ne pouvait pas avoir une vie normale. C'est un truc c'est un truc complètement horrifiant, je trouve. Et en même temps, heureusement qu'on a eu des voix comme ceci. Et puis, donc, entre autres, dans les deux références que j'ai ce jour, il y a effectivement son aventure intime, hein, sa fameuse famille arc-en-ciel.
Ouais.
Alors, pendant très longtemps, moi, j'ai vu ça comme encore une sorte de caprice de star, un peu, alors attention, je vais être horrifiant, mais un peu la Madonna, un petit noir, un petit jaune, etc., pour être horrible jusqu'au bout. Et en fait, quand on regarde de plus près et quand on s'y intéresse, c'est pas du tout ça. C'est du coup avec son mari Jo Bouillon, ils ont vraiment eu l'envie d'adopter des enfants. Et de respecter la culture d'où ils viennent. Ouais. Donc elle a fait il y avait vraiment cette volonté très généreuse. Et puis effectivement, c'est ce fameux château qui est devenu presque un château mythique, hein, les Milandes en Dordogne, vieux château, quand on regarde les photos, voilà, vieux château du fin fond de la Dordogne. Et là, elle va chanter, elle va recevoir, ça va être aussi un hôtel, et elle va élever sa tribu. sa famille arc-en-ciel, et on sait que malheureusement elle va devoir le revendre parce qu'à un moment donné elle est en partie ruinée. Ouais. Et jusqu'au bout de sa vie, c'est-à-dire jusqu'en 1975, elle va chanter, elle va être sur scène, et elle sera comme ça toute sa vie, effectivement, cette femme qui va se battre. Et elle dira: vivre c'est danser, j'aimerais mourir à bout de souffle, épuisé à la fin d'une danse. Mmh. Voilà, on a un volcan comme ça, on a un volcan qui quelque part, heureusement, a touché la France. Et je crois que cette entrée au Panthéon, je trouve que c'est tellement, tellement une belle image de la France que voilà.
Ça fait du bien.
Je suis très content dans mon petit coin d'être entré au Panthéon, et surtout j'ai été très content de relire pour l'occasion le très bon Catel et Bocquet, donc Joséphine Baker aux éditions Casterman, et puis ce petit livre à mettre entre les mains de tous les enfants qui s'appelle Joséphine, et c'est à Rue du Monde.
Très bien, merci pour ces références et pour cette rubrique, Bertrand Lamure.
Eh bien, écoutez, 30 novembre 2021, voilà. Et 30 novembre, c'est tout simplement parce que le 30 novembre 1937, si je ne dis pas de bêtises, c'est le jour où elle a obtenu la nationalité française.
D'accord, mais je savais même.
D'où le choix de ce 30 novembre. Je crois que je crois que j'ai tout dit. Là.
Bon, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne journée à tous.
Bonne journée, ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de cette émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de l'avoir écouté. Vous la retrouverez, si vous l'avez rejoint en cours de route, en podcast sur radio-calade.fr, et elle sera rediffusée demain matin à 10h comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro, ce sera demain à 12h12, et je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt sur Calade. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.